Allez, en place, c'est la poudre.
Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une
femme. I am a feminist.
Je vous obsède avec une constance.
Je ne me suis pas conduite.
Qui appelle quand même l'admiration.
Je me suis conduite d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
I'm sorry that I didn't become the world's first black.
Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps,
n'a pas d'époque, elle marque
son époque.
Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, de toute génération, de toute opinion. Comment sont-elles devenues femmes? Comment habitent-elles leur corps de femme? Que pensent-elles? Écrivent-elles? Vous vous apprêtez à écouter le dernier épisode de la saison 1 de La Poudre, avant un petit break de 2 mois et un retour en fanfare en octobre. Et ça n'est pas n'importe quel épisode. Je suis Lorraine Bastide, et aujourd'hui je reçois Leonora Miano.
Il s'est écrit de très grands textes littéraires depuis longtemps, et que l'humanité est toujours la même, donc soyons modestes.
J'ai découvert Leonora Miano en novembre dernier, lors d'une rencontre autour de l'œuvre de Maya Angelou, poétesse américaine et figure du mouvement pour les droits civiques. Ce qui m'a tout de suite conquise chez Leonora Miano, c'est sa voix, grave, profonde, puissante. Une voix dont elle se sert pour porter un message politique essentiel, mais surtout un message poétique.
Cette société ne voit que la partie de vous qu'elle peut accepter, et qu'il y a un moment où c'est fatigant.
Chez Leonora Miano, il est avant tout question de sens, de sensible, de sensuel. Son écriture est musicale. Après avoir écouté l'émission, vous n'aurez qu'une envie, aller dans une librairie pour acheter les 2 tomes de Crépuscule du Tourment, un roman dont la lecture m'a bouleversé l'âme et le corps.
On est constitué par des forces opposées et même quelquefois contraires.
Elle a écrit 8 romans, mais aussi de nombreux essais et recueils de conférences. En septembre, elle publiera « Marianne et le garçon noir », une réflexion sur le lien qu'entretient la République avec les hommes afro-descendants, notamment par le prisme des violences policières.
Il y a une dimension politique dans mes textes, je l'accepte.
Pendant l'heure d'entretien que vous vous apprêtez à écouter, un sourire béat n'a presque pas cessé de se dessiner sur mes lèvres. Leonora Miano a dit les choses que j'avais besoin d'entendre, tant sur le plan personnel que sur le plan politique. Quel bonheur de pouvoir les partager avec vous aujourd'hui. Avec Leonora Miano, nous avons parlé de Shakespeare, de frontières et d'humanité. Leonora Miano, vous êtes écrivaine, vous êtes couverte de prix littéraires, notamment le prix Femina reçu en 2013 pour la saison de l'ombre. Je suis fière et très émue de vous recevoir dans La Poudre. J'ai découvert votre travail par le biais du premier tome de Crépuscule du Tourment, votre 7e roman, qui est paru en août dernier. C'est un roman choral, le cœur étant constitué des voix de 4 femmes, une mère, une amante, une compagne et une sœur. Elles s'adressent toutes les 4 au même homme, Amok, un homme absent, volatilisé pendant les 280 pages du récit. Ce roman contient tout ce qui me touche. Il y est question d'intime, de vécu, de l'individualité qui raconte l'universel. Crépuscule du Tourment, le tome 1, est une réflexion puissante sur l'énergie féminine, sur ce qu'elle peut pour le monde, et elle m'a bouleversée. Et puis, il y a 3 mois, vous avez publié le tome 2 de Crépuscule du Tourment. Sur la couverture, on voit le dos d'un homme. Cet homme, c'est Amok, l'absent du premier tome.
C'est peut-être lui.
C'est peut-être lui. En tout cas, c'est un homme. Et enfin, il se raconte, il se révèle, ou plutôt il cherche à traverser le mur de barbelés qui l'encercle. Eh bien, croyez-le ou non, la claque que je me suis prise a été encore plus grande. Car ce que vous questionnez dans ce roman-là, c'est la masculinité. Je viens de passer une saison de La Poudre à éviter scrupuleusement de parler des hommes. J'y voyais une sorte de devoir féministe. Une façon d'affirmer que les femmes devaient pouvoir se définir sans avoir recours au masculin. Amok et vous m'avez fait comprendre qu'il était impossible d'entamer une réflexion féministe sans poser cette question-là. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à la poser, la question de la masculinité ?
Je pense que je la pose de façon annexe. Ce n'était pas le propos à l'origine. Crépuscule du Tourment, que je considère comme un texte, un même texte en 2 parties, avait pour moi une fonction extrêmement personnelle et intime. Donc il répondait d'abord à des attentes vraiment tout à fait privées, tout à fait privées, mais absolument nécessaires. Alors, il se trouve que je suis écrivain, donc j'appartiens à cette catégorie de gens qui s'imaginent que le monde entier doit prendre connaissance de leurs petits problèmes, que c'est, voilà, les moindres de nos élucubrations doivent être partagées. Donc, je propose ce qui me vient et qui est d'abord éminemment personnel. Donc au départ, il ne s'agissait pas de ces questions, en tout cas pas de façon aussi politique. J'ai commencé à écrire ce texte parce que je venais une fois de plus de rencontrer un échec amoureux. Alors il faut savoir que je suis quand même un peu surdiplômée dans le domaine du chagrin d'amour, j'ai tous les doctorats. Et là, la question était quand même de savoir, puisque si ça foire tout le temps, ça peut pas être que la faute des autres. Ce n'est pas possible. Même quand les autres ont leur part, bien sûr. Mais si on achoppe toujours sur les mêmes pierres, c'est qu'il y a quelque chose. Donc pour moi, il fallait savoir ce que c'était. Et savoir ce que c'était, cette chose qui abîmait mes relations, de très très belles histoires toujours. Pour savoir ça, il fallait comprendre comment je m'étais constituée comme femme, quel était mon héritage féminin, qu'est-ce que j'avais reçu des femmes de ma lignée, des femmes autour de moi, et puis quel était mon genre féminin. Puis ensuite, donc ça c'est le volume 1. Alors, il se trouve que je vis en France dans une société où, en dépit de la très très grande universalité de, en tout cas je crois à ça moi, des thèmes que je travaille, de la littérature elle-même, eh ben, il y a une vie sociale, et une vie sociale dans laquelle, pour quantité de raisons, les gens ne s'identifient pas aux uns et aux autres, les uns aux autres. Donc je sais que je vis dans une société qui ne s'identifie pas, en tout cas, la majorité des gens ne s'identifient pas immédiatement à moi. Quand on vit dans un tel contexte, il est très difficile, si on est aussi conscient de cela que je le suis, de produire un texte autobiographique au sens strict, parce que il est impossible de se dénuder devant des gens qui ne savent pas que vous êtes eux et qui verront toujours dans ce que vous leur montrez quelque chose d'exotique. Quand on va exposer son intimité, peut-être ses blessures, on n'a pas envie que les gens viennent là comme aux eaux humains. On a vraiment envie d'être sûr que la reconnaissance est immédiate, sinon c'est extrêmement violent. Donc je n'ai pas écrit de texte autobiographique pour cette raison, mais ça aurait pu. Donc dans Crépuscule 1, puisqu'il s'agissait de réfléchir à mon féminin, j'ai fractionné mon questionnement à travers ces quatre figures de femmes à qui j'ai prêté parfois du vécu personnel, des souvenirs de jeunesse, des réflexions, mais aussi des fantasmes, des questions. Et comme il s'agissait de réfléchir à moi de façon profonde et sans complaisance, le texte devait être écrit, ma foi... Bon, j'ai pas ce problème en général, il n'y a pas de tabou pour moi. Mais il fallait que les personnages s'expriment en toute liberté. Et je pense que c'est ce qu'elles font.
C'est des monologues intérieurs, en fait.
Oui, voilà, je voulais vraiment qu'elles disent « je » tout le temps. Qu'elles
disent un journal, d'ailleurs.
Oui, qu'elles disent « je » et qu'elles prennent prétexte de l'adresse à l'homme pour finalement se parler à elles-mêmes et dire des choses que, d'ailleurs, à mon avis, elles ne lui diraient pas si la conversation avait lieu. Donc, Crépuscule 1, c'est le féminin. Et à Crépuscule 2, au lieu que ce soit directement le masculin, c'est autre chose pour moi. Alors, ça touche ça, parce que moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à me définir comme femme. J'étais bien dans un corps de femme, et je ne souhaitais pas en changer. Je n'ai jamais ressenti le trouble qu'on peut éprouver lorsque on se sent homme dans un corps féminin. J'ai jamais eu ce problème-là. J'étais plutôt une entité un peu asexuée. En tout cas, je ne m'identifiais pas au féminin. C'est venu très, très tard. Donc, dans ma littérature jusqu'ici, lorsque j'ai vraiment voulu, là, de façon directe, explorer des choses qui me faisaient vraiment souffrir, je les ai prêtées à une figure masculine. Donc, Amok est à la fois un double littéraire qui me permet de travailler sur les blessures d'enfance, les miennes. Je pense que je n'aurais pas pu les prêter à un personnage de femme parce que sinon j'aurais pas écrit jusqu'au bout le roman. Ça aurait été trop difficile, j'aurais trop revécu ces choses intensément, je les aurais revécues trop intensément. Et donc m'aidant à travailler sur la blessure d'enfance et à la congédier, il me permet aussi de réfléchir à la possibilité d'une masculinité autre qui serait hors du cadre qu'on connaît, qui ne serait pas forcément dominante, mais qui serait pas forcément efféminée non plus. Alors cette réflexion, je pense qu'elle va me demander du temps. Mmh. Je ne l'ai pas menée à son terme dans ce texte-ci, mais c'est une amorce. Et je cherche vraiment ça. Et je pense que de toute façon, cette réflexion-là aussi vient... est cohérente avec la question du départ qui était pourquoi le chagrin d'amour. Est-ce que ça se passe avec des hommes? Il faut bien... ayant compris quel était mon genre féminin, je comprends mieux quel était leur genre masculin à eux, à mes partenaires. Je ne suis pas sûre qu'ils le sachent toujours ni qu'ils aient envie de le savoir. Forcément, ça amène, oui, toute femme, je pense en tout cas toute femme aimant les hommes, à se poser la question, qu'est-ce que c'est un homme et comment ça doit évoluer, comment ça comprend les choses. Je ne suis pas sûre que ce soit si différent au fond, je ne crois pas à ça de cette manière-là, je crois que c'est plus complexe. Mais en tout cas, le texte a produit son effet dans ma vie, ça va bien.
Et dans la mienne.
Ah bon ? Il y avait chagrin d'amour aussi ou c'était autre chose ?
Non, c'est d'autres choses, mais c'est des questionnements qui me touchent. Et comme on s'interroge aussi beaucoup sur le genre dans l'émission, c'est vrai que c'était ma question suivante. Amok, en fait, c'est vous en bien des aspects, vous avez parlé de votre enfance... Mm-hmm. Il vient d'une famille qui ressemble un peu à la vôtre.
Qui ressemble beaucoup à la mienne. Qui ressemble beaucoup à la mienne, peut-être trop.
Vous avez grandi à Douala, au Cameroun, même exact. Si on ne sait, enfin le pays d'Afrique où vous situez l'entrée n'est pas nommé dans le
pays
du
tout. Pas.
Vous avez, c'était comment grandir là-bas? C'était comment votre enfance?
L'enfance aurait pu être chouette si les gens n'avaient pas décidé qu'il fallait me tripoter trop tôt. Douala, dans les années 70-80, était déjà une métropole cosmopolite, très animée. On y rencontrait le monde entier. On était à la pointe aiguë de la mode dans tous les domaines. Rien ne nous a jamais... échappé, non, c'était une ville très dynamique, un peu canaille, elle l'est restée, les gens venaient et viennent toujours des pays voisins pour s'encanailler à Douala et apprendre à faire la fête. Alors les Camerounais ont la réputation, comparé à d'autres nationalités africaines, en tout cas les Camerounais du Sud, d'être un peu dépravé. Moi, je ne dis pas que nous sommes dépravés, je dis qu'on est assez libre, on n'a pas de complexe. Et donc, c'était plutôt chouette. Alors, c'est curieux de dire ça, puisque on vivait quand même dans une dictature, on savait que c'était une dictature, mais en même temps, je pense que de façon assez générale, les subsahariens de ma génération qui ont grandi en Afrique... ont quand même eu le sentiment qu'ils étaient dans le monde, que rien ne leur était interdit, que s'ils travaillaient, les choses étaient possibles. Je crois que c'est beaucoup plus dur d'avoir 15-20 ans aujourd'hui, n'importe où d'ailleurs, parce que le monde est devenu très brutal, extrêmement anxiogène et qu'on se pose très tôt des questions qui ne nous venaient même pas à l'esprit. On n'avait pas peur et puis on ne se sentait pas limité. Et puis la chose extrêmement précieuse que l'Afrique apporte, en tout cas aux personnes d'ascendance subsaharienne qui y grandissent, c'est qu'on ne s'y construit pas en dehors de quelques pays un peu exceptionnels par leur histoire, mais on ne s'y construit pas comme un individu racialisé. On est une personne, on n'est pas noir, puisque tout le monde est noir. Donc ça n'a pas de signification, on est d'abord quelqu'un. Et c'est très précieux parce que c'est avec ce bagage-là que vous allez rencontrer le monde. Donc nous n'avons pas quitté le Cameroun ou l'Afrique de façon générale en nous disant que nous étions noirs, que le monde était contre nous, qu'il y avait des choses qui nous étaient interdites, qu'on ne pouvait pas y arriver. Le genre de complexe qu'on peut avoir quand on grandit en situation de minorité, nous ne les avions pas. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui donne une espèce de puissance, même pas seulement de la force, une espèce de puissance, parce que ça évacue très très vite certains problèmes.
Vous dites dans Inviter la frontière, je crois d'avoir lu là, que vous lisiez Petite, Racine, oui. Les auteurs blancs, sans un instant vous dire que ce n'était pas une littérature qui venait de la culture du pays
non,
dans lequel vous grandissiez.
Mais jamais, et encore aujourd'hui. Mais pourquoi? Alors le théâtre en particulier, parce que le théâtre travaille vraiment sur des archétypes humains. Quand vous lisez une pièce de théâtre écrite par un grand auteur, c'est vous qui êtes dans la pièce. On ne peut pas lire Shakespeare en se disant que c'est des blancs. Ça n'a aucun sens de dire que c'est des blancs. Sauf quand la pièce le demande, comme dans Othello. Mmh. Puisque l'enjeu est, voilà, est la race du mort. Mais sinon, il n'y a rien dans ces textes qui ne vous appartiennent pas. Et d'ailleurs, les Africains montent depuis toujours Shakespeare, Racine, Tchekhov, de façon très naturelle. Ils se disent pas c'est des blancs là-dedans, ils disent c'est des gens là-dedans. Et ils ont raison. De toute façon, un grand texte littéraire, quel qu'il soit, même un texte, comment dire, très ancré dans une expérience régionale et avec tous les marqueurs de son contexte culturel, pour être grand, il faut qu'il dépasse son cadre. Et donc, finalement, le contexte culturel, historique, politique, ce n'est que le décor. Ce qui nous tient dans une fiction romanesque, dans toute fiction, c'est l'aventure des personnages. Donc, c'est l'expérience humaine. C'est quelque chose qu'on connaît et qui échappe au territoire, qui n'a pas de race, qui souvent même n'a pas d'époque. Et donc, oui, la littérature, c'est ça. Après, quand on découvre que malgré tout il y a des rapports politiques asymétriques, qu'il y a un passé historique un peu compliqué, on peut réagir comme je l'ai fait en découvrant que j'avais été privée d'autres littératures. Ouais. Mais en réalité,
Juste pour détailler un tout petit peu pour l'auditeur ou l'auditrice, oui, qui ne connaît pas.
Ah, qui n'a pas lu Habiter la frontière,
voilà,
autant le monde entier devrait avoir.
Recueil de conférences que vous avez donné, notamment aux États-Unis, qui est vraiment passionnant. En fait, voilà, vous dites que vous êtes le fruit d'une rencontre entre deux autres, entre deux mondes. Cette frontière, c'est cette rencontre, c'est pas une séparation, c'est plutôt des endroits où ça se touche. Donc il y a les langues officielles du Cameroun, que sont le français et l'anglais, des langues dans lesquelles vous baignez dans votre enfance grâce à vos parents qui vous mettent à disposition des tonnes de livres émanant de ces langues-là. Et puis celui de l'Afrique, des usages anciens que vous touchez à travers la culture, le quotidien, l'alimentation, les jeux. Voilà, donc c'est important cette notion de frontière pour comprendre qui vous êtes, j'ai l'impression.
Ah, je ne sais pas si c'est si important. Je pense que ce n'est pas très original, en tout cas. Ce n'est pas très original parce qu'au fond, c'est juste que les Occidentaux ne disent jamais à quel point ils ont été eux-mêmes transformés par la rencontre avec les autres. Mais personne n'est resté intact.
Je veux dire qui nous sommes.
Voilà, personne n'est resté intact. Et d'ailleurs, quelles qu'aient été les modalités de cette rencontre, Si vous touchez quelqu'un, vous le touchez, que ce soit pour le caresser ou pour lui donner un coup, votre corps ne peut plus ignorer ce contact s'il a eu lieu. Si vous le voyez, que vous le trouviez beau ou laid, votre esprit ne peut plus ignorer qu'il l'a vu, c'est comme ça. Et donc ça s'est passé des deux côtés, c'est juste que pour l'Occident, pour l'Europe, le mélange culturel, il s'est fait uniquement du côté des dominés qui ont donc reçu des choses et ont été modifiés. Mais moi, je connais très très peu de gens ici qui le matin ne boivent pas un café, un thé, un chocolat, et puis ça pousse toujours pas dans vos pays. Donc ça vient de quelque part et ça raconte quelque chose. Mais il y a la possibilité de s'imaginer qu'on n'a pas été affecté soit par cette rencontre et qu'on n'est pas dans cette hybridité. J'emploie le terme hybridité qui n'est pas très heureux, mais c'est simplement parce que je n'aime pas celui de métissage qui, pour le coup, est encore plus malheureux, même s'il est plus amplement employé.
Vous avez commencé à écrire très tôt, je crois, à l'âge de 8 ans. Quelle petite fille étiez-vous à ce moment-là ?
Une petite fille qui souffrait, qui avait besoin de le dire et qui ne pouvait pas. Parce que dans cet environnement privilégié où on avait accès à toute la littérature, sauf celle produite par des Noirs, et à des tas de productions culturelles, où on pouvait assez aisément aborder des questions politiques et intellectuelles même très tôt, parce que sur ces sujets-là, on nous demandait notre avis, eh bien, on ne pouvait pas parler d'intimité, pas vraiment. Or, j'avais besoin, moi, d'en parler. Et je pense avoir écrit d'abord pour cette raison, pour dépasser la frustration du silence qui m'était imposé. Et puis, en le faisant, j'ai senti, plus que je n'ai compris, que non seulement le silence ne pouvait pas m'être imposé si j'étais en mesure de faire ça, mais que j'avais, que je détenais une forme de puisance, puisque je pouvais choisir mon sujet, les mots, n'être pas interrompu. Et je pense avoir d'abord continué pour retrouver cette sensation ces sensations de liberté et de puissance, oui.
C'était une résistance ?
Non, enfin, en tout cas pas à l'origine. Je l'aurais pas employé ce mot. Peut-être qu'on peut le dire après tout, mais c'était une planche de salut. Et d'ailleurs, elle n'a pas été tout à fait suffisante, mais elle m'a permis au moins de rester là, de ne pas me faire de mal.
Et un jour, adolescente, je crois, vous découvrez Aimé Césaire, ou l'auteur américain James Baldwin, des auteurs qui d'ailleurs ont en commun avec vous cette notion de frontière, ou qu'on pourrait peut-être aussi appeler créolisation à la façon d'Edouard Glissant. Ils ont une écriture qui est poétique et politique. Est-ce que c'est leur lecture qui vous a politisé ? Est-ce que vous vous êtes politisé à ce moment-là ?
Je ne sais pas si c'est leur lecture qui m'a politisé. Je pense que je l'aurais été de toute façon, parce que les Camerounais sont politisés. Qu'on s'intéresse vraiment à ces questions-là très très tôt, et que, en tout cas, dans ma génération, c'était comme ça. En plus, c'était une génération sans écran, donc nous lisions beaucoup la presse, nous écoutions la radio, nous débattions, de l'état du monde. On a toujours fait ça. Et même les personnes, moi je m'en souviens, une personne qui n'avait pas forcément fait de longues études supérieures avait un avis sur la vie politique française, par exemple, et un avis très affirmé. Donc je pense que j'aurais de toute façon été politisée. Qu'est-ce qu'ils apportent, ces deux-là ? Ils apportent un manque que j'avais besoin de combler sur la connaissance des populations afrodescendantes, puisque j'ai eu très tôt un questionnement lié au destin des personnes qui avaient été déportées vers les Amériques, parce qu'on ne racontait pas ces histoires-là.
C'est pas transmis à l'école.
Non, de manière très superficielle. On avait des leçons très très vagues. Par exemple, pour ce qui concernait le Cameroun, on ne savait pas de quelle partie du Cameroun les gens étaient, quelle partie du Cameroun les gens avaient quitté, ni où on les avait emmenés, quelle nationalité européenne était impliquée. C'était vague, c'était très vague, trop vague pour que je ne me pose pas de questions. Et ces questions sont devenues des obsessions lorsque j'ai vu que, en les posant autour de moi, elle provoquait des crispations, parce que je sentais bien que les gens avaient la réponse, mais qu'ils ne voulaient pas la dire.
C'est très présent dans Crépuscule du Tourment, c'est le secret en fait que recherche.
Oui, ça, mais le secret est dans toutes les bourgeoisies du monde. je suis persuadée de ça, elles se ressemblent toutes. Et le secret est là parce qu'il y a des questions d'image qui sont très très fortes, l'image sociale, ce qu'on renvoie. Et, donc on ne peut pas renvoyer aux autres qu'on est socialement plus puissant, mais qu'en fait, à l'intérieur, on est aussi fragile et quelquefois vraiment misérable. Tous les puissants ont quelque chose à cacher.
Aujourd'hui, votre œuvre, notamment votre premier roman, L'intérieur de la nuit, est au programme du lycée au Cameroun depuis plusieurs années. Est-ce que c'est quelque chose qui touche la lycéenne que vous étiez, qui est encore en vous quelque part?
Ah, c'est quelque chose qui flatte mon ego au-delà de tout. Ça vaut tous les prix littéraires de la Terre d'être enseigné à l'école de son vivant. Je pense que toute personne ayant étudié la littérature à l'école me comprend. Hein, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel.
Et vous venez en France donc en 1991, vous avez alors 18 ans. Vous venez étudier les lettres anglo-saxonnes à Valenciennes puis à Nanterre. Quels étaient vos rêves? Quelle jeune femme étiez-vous à ce moment-là?
Je voulais pas faire ça. Je voulais pas venir en France. Je ne voulais pas
être. Vous aviez d'Amérique, non, c'est ça?
Non, même pas. Je voulais rester à Douala, à Yaoundé, au Cameroun, parce que le début des années 90, c'était une période de soulèvement. Important dans la jeunesse camerounaise, en particulier les étudiants qui avaient des revendications vis-à-vis du gouvernement et qui n'étaient pas entendus. Et moi, je voulais rester pour me battre. Et ma famille a décidé que je partirais. Et je suis venue en France avec une bourse de l'État camerounais. Et quand on remplissait ces dossiers de demande de bourse, on mettait trois possibilités de filières qui pouvaient nous intéresser. Et moi, j'ai atterri et j'ai obtenu mon troisième choix. C'était pas du tout. Et de toute façon, je ne me destinais à aucun métier pour lequel l'université soit la voie la mieux indiquée. Moi, je voulais faire de la musique.
De la musique?
Oui, je voulais faire du musical.
C'est important pour vous, la musique, dans votre écriture. D'ailleurs, c'est très, très présent.
Oui, mais je veux toujours faire ça dans la vie quand je serai grande.
J'adore.
C'est ça que je vais faire.
Vous avez écrit des chansons. J'ai cherché partout. J'ai pas réussi à les écouter.
Si, bien sûr, j'ai écrit des chansons. Ah, mais je ne laisse pas enregistrer si facilement. J'écris plusieurs répertoires et je les donne quand je les écris. Je n'ai jamais arrêté de chanter. Mais ma carrière d'auteur a pris plus d'importance, c'est pas moi qui décide ces choses.
Pourtant, vous êtes assez pudique sur les étapes qui vous ont mené à l'écriture à temps plein, mais en lisant notamment ce recueil de conférences dont on parlait tout à l'heure, on apprend que vous êtes devenue mère très jeune, vous avez connu des moments de précarité, vous avez connu le monde de l'entreprise également. On sent que ça a été difficile. Qu'est-ce qui vous a fait tenir à ce moment-là?
À quel moment?
Au moment où vous décidez, j'imagine que c'est compliqué quand on est une jeune maman, qu'on n'a pas forcément.
Oui, mais justement,
quand
on
écrit du matin au soir.
Mais j'écrivais avant. Non, c'était même pas ça la question. J'écrivais avant et ça, à un moment, ça prenait beaucoup de place dans ma vie. Et quelque chose qui prend beaucoup de place dans votre vie, il faut lui donner du sens. Le sens ne pouvait venir que de la publication. Et j'espère pour n'importe qui, femme ou homme, que le fait d'avoir un enfant ne vous conduise pas à abandonner qui vous êtes.
J'espère tellement, moi aussi.
Voilà, donc moi j'avais 22 ans, mais vous savez, j'ai grandi dans un... Ça semble loin aujourd'hui, hein, pour nous, les années 70 et 80, mais on n'est pas un bébé à 22 ans. Hein, on est une grande personne. J'étais assez grande pour décider que je voulais garder cet enfant, je l'ai gardé. Et ma fille aujourd'hui a 22 ans, elle va très bien. Elle va très bien, elle ne se souvient pas que quand elle est née, sa maman était sans domicile fixe et sans papier. Et elle n'a aucune idée de mes professeurs de faculté qui ne comprenaient pas pourquoi je ne me faisais pas avorter, ni des assistantes sociales qui m'accusaient d'avoir gardé le bébé pour avoir des papiers français. Elle va très bien. Et sa vie est beaucoup moins précaire que la mienne, parce que je peux la soutenir un peu. Et donc voilà, je n'ai pas de... C'était juste la vie. Vous savez, quand vous êtes dans la mer, vous nagez, hein, sinon vous coulez. Et moi, j'avais une petite fille merveilleuse. Quand un enfant est tout petit, il est tellement, sa confiance en vous est totale. Il s'abandonne tellement que vous n'avez pas beaucoup de choix. Si vous êtes sensible à cela, parce qu'on n'est pas obligé de l'être non plus. Mais il se trouve que je l'ai été alors même que je n'avais pas prévu, hein, moi, d'être mère. Je voulais aller faire du cheval dans les steppes de Mongolie. J'ai jamais été le genre de personne qui se rêvait maman. Mais ça m'est arrivé et je suis tombée amoureuse de mon bébé. Et donc, une fois que je suis tombée amoureuse de cette petite fille, il a fallu tout faire pour sauver nos peaux. Ça a pris du temps, mais ces vies sont finalement assez ordinaires. Beaucoup de gens passent par ces épreuves.
Mais peu s'en sortent par l'écriture, comme vous l'avez fait vous, comme vous le faisiez.
Mais peut-être parce que j'ai commencé à écrire avant et que ça faisait partie d'un système de vie. Et que moi, j'ai toujours, dans les pires situations, j'ai toujours refusé de me laisser définir par la situation. C'était un moment de ma vie, mais ce n'était pas ma réalité pour toujours. Je crois que ce qui m'a sauvée, c'était justement d'avoir eu une autre vie avant, et de savoir donc que ce n'était pas ma place pour l'éternité, c'était un accident. Et puis bon, à 22, 23 ans, on est quand même jeune. Ce serait dommage que tout soit joué quand même, que tout soit déjà fini. Moi, c'est pas fini tant que je respire. Hein. Donc en général, si on veut me tuer, il faut me décapiter, être sûr que je sois morte. Parce que bon, oui, si il se met à pleuvoir des rochers, je vais faire le dos rond le temps qu'il faut. Mais en général, je me redresse. Mais c'est aussi le... On vient d'un continent où la vie est dure et on connaît tous des gens pour qui c'est vraiment très difficile. On peut s'en sortir ici. Ça va, ça va. Même aujourd'hui où tout est plus compliqué, on peut encore s'en sortir. Hein, dans un pays où il y a la sécurité sociale, où les soins sont remboursés, où il y a toujours finalement un endroit où on peut vous aider un peu. À vous de saisir cette opportunité. Je ne dis pas que j'ai rigolé tous les jours pendant cette période, mais sûrement fallait-il que je passe par là pour apprendre certaines choses et peut-être pour nourrir l'écrivain, je ne sais pas.
Vous avez dit récemment que Crépuscule du Tourment était votre premier questionnement sur le féminin, que vous étiez même surprise d'avoir attendu plus de 40 ans pour le poser. Alors pourtant, un autre de vos ouvrages, Blues pour Élise, qui est sorti en 2010, me semble poser un peu ces questions-là. Il est déjà question de voix de femmes. Mmh. Ce sont les voix de 5 femmes noires vivant à Paris. Est-ce que c'était une démarche différente ?
Blues pour Élise, je l'ai écrit pour ma fille qui avait 16 ans à l'époque. Et je voulais qu'il y ait dans la littérature produite dans son pays, la France, puisque c'est le pays que je lui ai donné et le pays auquel je l'ai donné, elle. Je voulais qu'il y ait une littérature présentant des personnages auxquels elle puisse s'identifier, c'est-à-dire des personnages de femmes noires, plutôt de classe moyenne, et on fait des études qui sont françaises, qui n'ont pas besoin de gruger les allocs, qui ne sont pas expulsables, parce qu'il n'y a pas beaucoup ces figures. Donc ce n'est pas moi-même tellement que j'ai projeté dans les personnages de Blues pour Élise, mais une partie de la société que j'ai voulu montrer à tout le monde. Le roman se démarque des autres parce que justement, en général, j'écris pour répondre à des questions, alors que là, j'ai vraiment écrit pour montrer des visages qui existent et qui ne sont pas souvent exposés, en tout cas pas dans cette simplicité de la vie amoureuse, amicale, familiale, qui est le cœur de nos vies à tous. Et donc voilà, et c'est pour elle, pour qu'elle puisse avoir quelque chose à partager avec ses copines. Je pense que ses copines l'ont plus lu qu'elle.
D'ailleurs, vous parlez de montrer, et le livre a été adapté au théâtre, hein, dans une mise en scène d'Eva Doumbia. La pièce s'appelait Afropéenne. Les personnages de Blues pour Élise disent « Femme in a city ». Et le mot « Afropéenne » que l'on vous doit a bouleversé, je crois, de nombreuses jeunes militantes afroféministes. L'une des plus suivies et des plus lues, qui s'appelle Mrs. Roots, a écrit ceci sur son blog. Un des mots-clés qui m'a poussée à ouvrir mon blog était le mot afropéen, lu un jour par hasard dans un roman d'Eleonora Miano. Vous sentez ce rôle d'éveil des consciences ?
Non, je suis très égocentrique, mais mes ambitions en matière de transformation sociale par la littérature sont très limitées, parce que je crois que il s'est écrit de très grands textes littéraires depuis longtemps et que l'humanité est toujours la même, donc soyons modestes.
Mais vous avez quand même aidé des jeunes femmes en formulant cette afropéenne qui veut dire vraiment quelque chose d'autre.
J'espère, mais pour moi c'était essentiel de nommer une ethnicité qui existe dans sa singularité. Et d'ailleurs, je n'ai pas inventé le terme, je me le suis approprié, parce que quand je suis arrivée en France en 91, il se trouve que dans les années 90, alors c'était peut-être un peu limité à une sphère artistique, mais ce terme était déjà très employé. C'était comme ça que les gens se définissaient, et je trouvais qu'ils avaient raison, puisque un Afro-Européen, c'est pas un Africain, mais c'est pas non plus un États-Unien. Il y a quelque chose de particulier dans la sensibilité, dans la trajectoire historique aussi. Quand vous êtes Africain, vous venez donc de cet espace qui est une espèce de matrice d'ailleurs pour toute l'humanité, et qui est un espace très 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 ancien, avec une grande diversité culturelle, vraiment, il y a des Afriques. Quand vous venez d'Amérique du Nord, vous venez d'un endroit qui n'a pas encore vraiment, alors j'espère ne pas choquer les États-Unisophiles, mais c'est un pays qui n'a pas encore vraiment de civilisation. C'est tout neuf, c'est un pays adolescent. Ce qui avait d'ancien a été un peu écarté, même pas un peu, puisque les Amérindiens vivent dans des réserves et ont assez peu de droits de cité dans leur propre, sur leurs terres ancestrales. Et donc finalement, le pays appartient à tous ceux qui sont arrivés après. Et qui, tout le monde est aussi légitime. Personne ne peut dire, même s'il y a des gens qui essaient, personne ne peut revendiquer une espèce d'antériorité de sa présence qui lui permettrait donc de traiter les autres différemment. Je dis bien, a priori, personne ne peut. Il y a des gens qui tentent, mais quand même, ça appartient à tout le monde. L'Europe, c'est différent, puisqu'elle a sa mémoire, une mémoire longue. Et pour un pays comme la France, en France hexagonale, on peut tout à fait se raconter l'histoire d'un pays de blancs. Parce que les autres populations sont arrivées tardivement, et quand elles sont arrivées, elles ont été minoritaires, même si ça fait il y a 400 ans maintenant, un peu plus de présence noire en France hexagonale, elle a toujours pu être minorée parce que elle était ultra minoritaire. Et donc, on ne se construit pas de la même façon dans ces environnements. D'ailleurs, que ce soit en France ou en Suède, parce qu'il y a des Noirs en Suède aussi, qui ont une histoire suédoise. Et donc, cette afropéanité qui, d'ailleurs, pour moi, devrait passionner tout le monde, parce que c'est la seule nouveauté dans le domaine des études afro-diasporiques. Elle est spéciale et elle doit pouvoir exprimer sa spécificité.
Une identité ?
Oui, une identité particulière, cet attachement plus ou moins marqué à l'Afrique, mais aussi cet ancrage européen très très fort. Ce sont des gens qui sont d'ici. Et il faut qu'ils puissent revendiquer leur lieu de référence sans que ça leur soit douloureux et donc sans que ce soit contesté par d'autres. Et je pense que le terme afropéen, ce qu'il fait, c'est qu'il apaise. Il apaise les tensions, il permet aux gens de s'autoriser à ne pas choisir entre tout ce qui les constitue, tous les éléments culturels qui les constituent. Et puis bon, c'est aussi un mot très ambitieux, puisque on est constitué par des forces opposées et même quelquefois contraires. Hein, et qu'il faut énoncer ce terme afropéen, c'est formuler l'ambition vraiment de les pacifier. C'est pas si facile. Donc il faut, c'est vraiment porteur d'espérance, et je suis même pas sûre que toutes les personnes qui le revendiquent arrivent à la hauteur de ce que ça peut signifier. Ça, c'est très exigeant.
Alors, le questionnement sur le féminin, vous l'explorez aussi dans une autre œuvre qui est sortie en 2012, écrit sur la parole. D'ailleurs, je signale aux auditrices et auditeurs qu'on peut l'écouter lu dans un épisode de l'atelier fiction de France Culture que j'ai fait le week-end dernier, et c'est une jouissance. Et en parlant de jouissance, votre écriture, je trouve que quand elle est lue, écoutée, elle prend une autre dimension, peut-être à cause de la musique qui est si présente dans votre esprit quand vous écrivez. Et j'aimerais vous demander si vous étiez d'accord pour lire un petit passage que j'ai choisi dans le tome 1 de Crépuscule du Tourment.
Oui.
Ça vous convient ?
Pas de problème.
Super.
Je peux tourner les pages sans...
Il n'y a pas de souci, allez-y, on vous écoute.
Être femme en ces parages, c'est évaluer, sonder, calculer, anticiper, agir et assumer. Ne s'appuyer que sur soi. La confiance est un risque à ne pas prendre. Et la chance, un animal rusé qui s'attrape au lasso après qu'on l'a attaqué de nuit, de jour, au péril de sa propre vie. Parfois épuisé par l'attente, l'effort, la lutte avec la bête qui ne se laisse pas prendre sans combattre, on ne peut plus la savourer, la chance. On la regarde dans les yeux pour s'apercevoir qu'on ne la désire plus, qu'il n'est plus temps. L'amitié est conditionnée. Elle n'est pas un lien affectif mais social. Les amis sont ceux qui peuvent rendre service. Il faut donc soi-même avoir quelque chose de concret à offrir. On n'est pas auprès des gens, encore moins avec eux, uniquement pour le plaisir, la joie du partage. La sororité est affaire de classe. Comme dans les familles de sang, on ne choisit pas les membres du groupe. La différence ici réside dans la possibilité de répudier les contrevenantes aux lois non écrites, non formulées, mais connues de toutes. Jadis, on faisait d'abord partie d'une génération, sans distinction de rang social. Les temps ne sont plus de cette initiation collective qui imposait aux filles d'une même classe d'âge respect et solidarité. Je n'ose parler d'amour. Il en fut pourtant question, sous diverses formes, mais nous l'avons oublié. Nous ne savons plus les caresses échangées entre jeunes initiés, dans le secret de la case commune. Les femmes de mon époque ne connurent pas la proximité, l'intimité de cet apprentissage. Jamais nos aînés ne nous massèrent le clitoris pour nous faire visiter le royaume dont nous seuls serions souveraines. Jamais elles ne nous dirent que l'équilibre affectif reposerait sur notre capacité à nous épanouir auprès de l'un et l'autre sexe, sans exclusivité. Elles ne nous révélèrent pas que pour chacune, il devait y avoir non pas un, mais deux couples. Nos aînés ne nous apprirent pas à faire l'amour à une femme, à le découvrir d'abord dans les bras, dans le souffle, dans les humeurs d'une femme. Savait-elle que les femmes n'habiteraient plus que nos désirs inavoués, que ces derniers nous épouvanteraient tant que nous les réprimerions avant de les avoir vraiment éprouvées? Savait-elle que dans un monde régi par une puissance masculine mal ordonnée, les femmes ne pourraient être que rivales, n'employant leur force qu'à séduire, à ferrer, à tenter de conserver ce pantalon sous leur toit? Elle ne l'ignorait pas. C'était ainsi qu'elles-mêmes avaient vécu, puisqu'elles étaient descendues avant nous dans un shéol qui ne dit pas son nom, ce culte qui ne célèbre que le Père et le Fils.
Merci beaucoup.
Oui, je vous en prie.
Et j'ai choisi ce passage en particulier parce que deux des personnages principaux du roman trouvent une sorte de salut dans l'homosexualité féminine. Est-ce une façon pour vous de résoudre cette question de la masculinité? Je pense que la question est un peu maladroite.
Non, pas du tout. Et ça fait partie des propositions qui s'offrent à nous, des possibilités affectives. Tout simplement, je ne pense pas que... D'abord, je n'emploie pas le mot homosexuel.
Non.
Parce que... Je viens d'un espace où on ne nomme pas ce qu'ici on désigne comme orientation sexuelle. Il n'y a pas de mot ni pour dire homosexuel ni pour dire hétérosexuel. Je trouve ça très bizarre de définir les gens par ça.
Comme s'il n'y avait que deux voies possibles déjà.
Mais déjà, même à supposer qu'il n'y ait que deux voies, est-ce qu'on peut définir les gens par la manière dont ils font l'amour? C'est quand même très bizarre. Je comprends la définition de genre, si on accepte l'idée qu'il n'y a pas seulement deux genres. En tout cas, dans les cultures non occidentales, la plupart d'entre elles, on considère qu'il n'y a pas seulement deux genres. En tout cas, qu'il y a plein de choses entre. Si vous voulez, que ces genres ont des degrés. En tout cas, s'ils sont des absolus, il y a des degrés qui sont valides. Mais la définition de l'orientation me semble problématique, donc je n'emploie pas. Et je trouverais assez triste que des femmes se tournent vers d'autres femmes un peu par dépit ou parce que les relations avec les hommes sont problématiques pour elles.
Là, c'est leur grand amour. Dans les deux cas.
Ben oui, il faut que ce soit un amour en tout cas. Il ne faut pas que ce soit une espèce de pis-aller ou quelque chose. Ce serait assez moche. Donc ici, ce n'est pas le cas et chacune le vivra différemment. Il y en a une qui choisira de renoncer à cette passion pour une autre femme parce qu'elle veut garder sa place dans une société qui n'accepterait pas cette relation, mais elle s'est découverte et elle sait qu'au fond d'elle, ce qu'il lui faudrait, ce serait dans sa vie un homme et une femme. La seconde découvre son attirance pour les femmes et s'autorise à vivre l'amour qui s'offre à elle, très, très simplement. Il n'y a pas de réflexion liée à la difficulté relationnelle avec les hommes. Si vous aimez les hommes, vous n'aimerez pas les femmes. Si vous désirez des corps masculins, ce ne sera pas évident pour vous
Après, il y a un personnage qui a encore une autre dimension. Enfin, moi, j'aime beaucoup justement ces différents degrés que vous indiquez ou même que vous inventez à travers vos personnages. Il y a un des personnages féminins qui veut faire l'amour avec des hommes mais ne jamais être pénétrée.
Oui, elle a son petit traumatisme, mais elle rencontre aussi, parce que ces hommes existent, elle finit par rencontrer quelqu'un qui lui aussi a envie d'être pénétré par une femme. Ce qui est également le cas d'Amok, d'ailleurs, c'est son grand fantasme. Ce serait difficile pour les hommes de dire ça, mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir, puisque on pense pertinent de définir les orientations sexuelles, comment on appelle ça? Ça, c'est quoi? C'est de l'homosexualité refoulée, c'est une hétérosexualité inaboutie. Vous voyez, ces catégories, dès qu'elles sont figées comme ça, elles sont peu satisfaisantes, forcément. Donc moi, je suis pour que les gens explorent leur intimité, se découvrent et fassent ce qui est bon pour eux, en espérant qu'ils trouvent le partenaire qui correspond à leur désir, à leurs besoins, tout simplement. Ce que je souhaite pour les personnages, c'est ce que je souhaite pour tout le monde, de trouver son épanouissement et puis surtout d'en assumer les formes, même si elles ne sont pas, conventionnelles.
Vous vous revendiquez souvent, je l'ai entendu de votre bouche dans plusieurs émissions, comme une artiste, pas comme une intellectuelle. Vous dites que votre œuvre est avant tout sensible. Pourtant, dans les articles qui parlent de vous, dans les portraits qu'on fait de vous, on vous décrit souvent comme une femme en colère, je mets des guillemets, voire une écrivaine qui dérange. Est-ce que cela vous convient d'être représentée comme ça?
Mais c'est précisément pour toutes ces raisons qu'on ne peut pas écrire une autobiographie, puisque ces gens ne voient qu'un cinquième de vous. Et que vous savez pertinemment que c'est ce même cinquième-là qu'on verra de toute façon. Vous ne pouvez pas vous montrer aux gens pleinement. C'est important qu'on entende ce que je dis là. Parce que si on l'entend vraiment, on va comprendre pourquoi des jeunes femmes qui ont toujours vécu en France, qui ont parfois été élevées par des parents blancs, qui ont des compagnons blancs, qui sont métisses, décide de faire des groupes de rencontres non mixtes. C'est parce que cette société ne voit que la partie de vous qu'elle peut accepter. Et qu'il y a un moment où c'est fatigant et qu'on ne peut pas... qu'on ne peut pas se dénuder devant des gens qui ne savent pas que vous êtes eux. Et donc voilà, moi je sais... Il y a une dimension politique dans mes textes, je l'accepte. Mais je pense qu'il ne s'y limite pas. Et qu'il ne s'y limite pas n'empêche pas pourtant la critique de circonscrire ma production à ce domaine-là. Je n'y peux rien. Et j'emprunte les voies que je peux pour échapper aux problèmes que ça peut poser.
Ça ne va pas aller en s'arrangeant, je crois, parce que vous venez de vous saisir d'une conversation que la France ne semble pas très désireuse d'avoir avec elle-même, au sujet des violences policières. Vous avez publié une tribune dans Libération en août dernier, Marianne et le garçon noir, qui est aussi le titre d'un livre qui sortira en septembre. Vous y évoquez la mort d'Adama Traoré, un jeune homme de 24 ans, qui a perdu la vie au cours d'une interpellation par les forces de l'ordre. Vous parlez aussi d'Amadou Koumé et de Lamine Dieng, qui sont morts dans des circonstances similaires, comparables. Il est encore question dans ce texte de masculinité.
Oui, parce que je ne voulais pas réduire justement l'expérience des hommes noirs vivant en France à ce choc des masculinités que sont les rapports avec la police, parce que c'est un choc des masculinités. Ce n'est pas perçu comme ça, mais c'est vraiment ça. Et ce qui s'affronte là, bien sûr, ce ne sont pas les individus, ce sont les représentations qu'on a encore de catégories humaines. Quand quelqu'un s'approche d'un jeune homme noir pour donc effectuer un contrôle d'identité, procéder à un contrôle d'identité, ça tourne comme ça tourne, on ne sait pas, on n'était pas là. mais que le mot bamboula est prononcé et qu'on crache sur l'individu, on n'a pas craché sur cette personne. Dès qu'on dit bamboula, dès qu'on profère une injure raciste, on parle d'un groupe, on parle de millions de gens, on parle de plein de gens qui sont morts. Et pour beaucoup, la dernière chose qu'ils ont entendue, c'était une injure raciste. Donc, ce ne sont plus des individus qui sont impliqués. En France, on pense que le racisme, c'est un mauvais comportement individuel.
C'est immoral.
Voilà. Alors que c'est vraiment quelque chose de plus vaste. Quand on est face à face, il n'y a pas de race. Pour qu'il y en ait, il faut qu'il y ait plein de choses derrière nous. Il faut qu'il y ait un passé, il faut qu'il y ait des représentations qui sont toujours là, il faut qu'il y ait ce qui est plus important, c'est ces notions de pouvoir et d'impouvoir. Les catégories blanc et noir, elles ne parlent pas de la carnation des gens, elles ne parlent pas de la couleur de nos peaux, elles parlent de situations politiques, elles parlent de conditions politiques. Et c'est toujours ça qui est à l'œuvre quand ces situations se produisent. On va commémorer dans quelques jours les 10 ans de la mort de Lamine Dieng. Lamine Dieng a été interpellé par 8 policiers. Il était seul et sans armes. Comment on meurt? C'est compliqué de dire ça. Comment on meurt? Comment est-ce qu'on se retrouve avec 5 personnes assises sur votre corps jusqu'à ce que votre cerveau enfle, mais qu'il enfle tellement que il n'y a plus de place dans la boîte crânienne et qui s'écoule par le trou occipital, c'est ce qui lui est arrivé. Il était déjà attaché. Il avait 5 personnes sur son corps. On voit bien que quand même, quelle que soit la situation, imaginons même que Lamine Dieng était une espèce de King Kong, imaginons ça, qu'il était King Kong et que c'était vraiment une butte, mais enfin, une brute. Ils étaient 5. Ils avaient réussi à le maîtriser, à l'attacher. Ils se sont mis à 5 sur son corps. Ils ne lui ont laissé aucune chance. On peut quand même juste constater ça, qu'ils ne lui ont laissé aucune chance, même pas de se défendre, mais de survivre. Et je pense que, très honnêtement, l'intention de tuer n'est jamais là. Mais ce qui est là, ce sont de très très vieilles représentations qu'on a eues de ces hommes noirs, bestialisés, hypersexualisés. Il avait 25 ans, que pouvait-il? Il n'était pas armé. Donc il y a quelque chose d'irrationnel qui se joue et qu'il faut interroger. Donc Marianne et le garçon noir dépassent le cadre des violences policières. Comme je l'ai dit tout à l'heure, comme il n'est pas facile de se mettre à nu dans une société qui devrait vous connaître intimement mais qui ne vous connaît toujours pas et qu'on n'a pas tous les jours envie de faire de la pédagogie sur qui on est, alors que qui on est, ça s'est construit avec l'autre à qui on parle. Eh ben, j'ai proposé aux garçons, aux messieurs qui ont bien voulu collaborer à l'ouvrage, de parler de la manière dont on construit sa masculinité en situation de minorité et puis de leur rapport à la France. Je les ai laissés libres d'aborder la question comme ils le souhaitaient. Je ne pouvais pas imposer à tout le monde de parler des violences policières si on n'en avait pas envie. C'était déjà assez difficile de les amener à parler. La masculinité, voilà, une de ses grandes caractéristiques, c'est de se construire dans le silence. Les hommes ne parlent pas. Les hommes ne parlent pas et ils ont des choses à défendre qui font que ce n'est pas évident pour eux de se livrer. Alors ceux qui acceptaient de le faire, je voulais qu'ils puissent le faire en toute liberté. Et puis surtout que leur expérience, leur vécu ne soit pas limité à ces confrontations avec la police, qu'ils puissent nous parler aussi d'autres choses. Et c'est ce qu'ils font et je les remercie vraiment d'avoir accepté. Pour moi, c'était un devoir. Bien sûr, je ne veux pas que ma littérature soit réduite à sa dimension politique, mais je vis dans cette société vous avez parlé d'Adama Traoré, il avait 24 ans, je vous ai dit que ma fille en avait 22, Théo Louaka a 22 ans, enfin, pour moi c'est un bébé, c'est mon bébé, ça pourrait être mon bébé. Et ce sont des situations devant lesquelles on est tous extrêmement démunis, on a besoin de réfléchir. On a vraiment besoin de réfléchir et de se parler, y compris parfois de choses désagréables, parce que nous allons vivre ensemble. Ça ne va plus jamais s'arrêter. Et on va vivre ensemble. Donc essayons de vivre ensemble vraiment, pas les uns à côté des autres, parce que ça, c'est ce qui nous guette, de vivre les uns à côté des autres. Donc j'espère que l'ouvrage sera lu, que les gens voudront rencontrer ces messieurs, voir comme ils sont intelligents, comment ils s'en foutent d'être noirs la plupart du temps. Ce n'est pas comme s'ils ne se lèvent pas le matin en disant qu'ils sont noirs, mais ils savent qu'ils sont noirs. C'est autre chose.
On leur rappelle voilà. Quand même
non, mais et puis être noir, c'est ce n'est pas que comment dire ça. Je me lève pas le matin en pensant que je suis noire, mais je le suis. Et ce n'est pas toujours quelque chose de désagréable. Moi, je considère ça même comme quelque chose d'assez chouette. Je trouve que ce serait bien qu'on puisse partager ce privilège avec d'autres. Mais en tout cas, ce n'est pas une limite. Et ce n'est pas quelque chose qui doit... voilà, ce n'est pas quelque chose qui doit nous enfermer, ni dans les représentations qu'un autre a de nous, ni dans celles que nous pourrions construire nous-mêmes. Or, on a l'impression que la situation nous oblige soit à l'un, soit à l'autre. Moi, j'adore être noire, parce que j'ai choisi d'être noire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas grandi dans un environnement qui faisait qu'on se définisse forcément ainsi. Donc, je l'ai choisi et je sais ce que j'y mets. J'y mets des tas de choses qui sont pas raciales, qui sont un attachement à la figure... voilà, des victimes de la déportation transatlantique, par exemple, parce qu'on devient des Noirs quand ce moment-là arrive. Avant ça, il n'y a personne en Afrique qui se définit comme Noir. Jamais. Les gens, ils sont Serrères, ils sont Manjak, ils sont Diola, encore aujourd'hui. Hein. Ils ne sont même pas Africains, ils sont d'abord ça. Ils sont d'abord ça. Africain, c'est un nom pour l'extérieur. Mais dans ta communauté, tu es Serrère, tu es Douala, tu es Diola, tu es... J'ai des tas d'autres choses qui sont tellement plus anciennes que toutes ces appellations récentes et qui sont des appellations coloniales. Moi, dans le terme noir, je mets des choses qui ne sont pas raciales, qui sont mémorielles, qui sont affectives et que j'adore. Et j'espère qu'on peut aimer être noir sans passer pour une extrémiste. On a le droit d'aimer les noirs. Vous parliez tout à l'heure de Blues pour Elise. Il y a quelqu'un, une dame, une lectrice, qui est venue me voir un jour très très en colère parce qu'elle trouvait que c'était un ouvrage raciste. Et pourquoi pensait-elle que c'était un ouvrage raciste? C'est qu'il y avait un seul couple mixte. Et elle trouvait que les Noirs qui vivent en France, eh ben, ils doivent, pour montrer qu'ils sont intégrés, plutôt être en couple avec des gens qui ne sont pas Noirs. Ça, je trouve que c'est stupide et assez grave. Comment est-ce que ça peut être un problème que les Noirs aiment les Noirs? Comment ça peut être un problème? Voilà, donc on est dans des situations, juste parce qu'on ne se parle pas et que le fait de ne pas se parler fait prospérer les fantasmes, les incompréhensions. Voilà, on est dans une situation qui risque bientôt d'être inextricable parce que l'état du monde est déjà assez difficile. Sur le papier, la France, c'est le plus beau projet de pays de la Terre. Mais c'est un projet très, très exigeant, très ambitieux, et il demande de ne pas craindre les confrontations avec la vérité pour pouvoir la dépasser.
Vous me dites si je m'égare, mais je pense que ce que vous venez de me dire conforte un peu l'impression que j'avais, que votre positionnement s'est un peu durci, qu'il y a plus d'indignation dans vos récentes prises de parole. Je vais même aller plus loin dans vos textes qui datent de 2012. Il est vraiment majoritairement question de cette hybridation dont vous parliez au début de l'interview. Dans l'introduction de Marie des Garçons Noirs, vous parlez de racisme systémique. Est-ce le contexte politique qui vous oblige à vous repositionner? Est-ce que c'est la France qui a changé, qui vous oblige à prendre cette parole-là?
La France a fait quelque chose en 2007 qui l'a transformée. Pour moi, hein. C'est très subjectif ce que je vais dire, mais je crois que quelques personnes pourraient s'accorder avec moi là-dessus. La France a élu Nicolas Sarkozy à la tête de l'État. Et à partir de là, ça avait même déjà un peu commencé quand il était ministre de l'Intérieur. On a complètement libéré la parole raciste. Avant, il y avait des inhibitions. Et ça a tout changé. Le pays dans lequel je suis arrivée en 91 était un pays où vraiment on pouvait avoir l'espoir du mélange. Moi, je me souviens encore, j'avais pas de télé dans ma chambre de CTU et je courais le matin à 6h30 dans la chambre d'une copine pour voir les clips qui passaient très très tôt le matin sur M6. Si on voulait les voir, c'était sur M6 tôt le matin. Je voulais voir FFF avec Marco Prince.
Oh, c'était mon idée.
Et je voulais voir Ayam, les Tam Tam de l'Afrique avant d'aller à la fac. Et c'était une période, je me souviens des groupes français des années 90, Dis bonjour à la dame, Alliance ethnique. Enfin, on allait plutôt vers le mélange. Hein. C'était quand même ça l'idée. Et puis quelque chose s'est passé, je ne sais pas quoi. Alors, est-ce que ça a commencé à changer déjà à la fin des années 90? Je ne sais pas. Toujours est-il que moi, je date vraiment la mutation, le virage à 180 degrés à l'élection de Nicolas Sarkozy, dont je dis qu'elle a rapetissé la France. Hein, elle a amené la France, oui, elle a amené la France aux dimensions de Sarkozy. Cette vulgarité, ce n'était pas ça ce pays, mais il faut faire très attention aux symboles. C'est bien la transgression. Hein, je suis quelqu'un de très transgressif. Mais pour l'être, il faut savoir aussi ce qui doit rester sacré. Et voilà, Nicolas Sarkozy a libéré cette parole. Pendant 5 ans de présidence Sarkozy, on s'est pris sur la figure tellement de saleté qu'il a fallu pour moi écrire donc ses écrits pour la parole. Ça a commencé là. Et puis... Si pour moi ça a produit seulement un texte parce que je suis écrivain, pour les autres, qu'est-ce que ça a pu produire? Pour les autres qui l'ont vécu en même temps et qui n'ont pas cet outil, qu'est-ce que ça a pu produire chez les personnes qui étaient plus jeunes et pour qui ça a été extrêmement violent toute cette période? Et puis de toute façon, on est resté dedans, on n'a plus quitté ce moment-là. Ça n'a fait que prendre de l'ampleur. Dans les années 90, on ne pouvait pas imaginer un instant que, je ne sais pas, France Inter reçoive Marine Le Pen. C'est quelque chose de totalement surréaliste. Mais aujourd'hui, il faut la recevoir. Parce qu'on a fait en sorte que ce soit comme ça. Alors, il y a des gens qui ont joué avec le feu, qui ont permis que ces idées-là prospèrent en se disant que ça leur permettrait à eux de toujours garder la main. Oui, peut-être qu'ils gardent la main, mais malgré tout, ces idées prospèrent. Voilà. Donc, pour l'instant, ils gardent la main, mais elles ont quand même pris de l'ampleur et les gens sont confortés aujourd'hui dans dans leur droit à exprimer certaines choses qui sont, extrêmement violentes. Et qui sont souvent tout simplement la négation de l'humanité de l'autre. Donc il faut faire attention à ça, parce que dans un pays multiethnique, et la France est multiethnique parce qu'elle l'a voulu, ce n'est pas, en disant ça, je ne parle pas seulement du fait qu'il y ait en France hexagonale une population ayant des ancêtres immigrés. Je parle du fait que la France a choisi de se déployer sur plusieurs océans et qu'à partir du moment où elle a des territoires dans la Caraïbe, en Amérique du Sud, elle se reconnaît elle-même comme un pays qui n'est pas seulement occidental. Parce que vous n'imaginez pas une seconde qu'on aille aller raconter, aux Amérindiens de la Guyane française que leurs ancêtres sont gaulois. Ils ne sont pas français parce qu'ils ont émigré. Ils sont français parce que la France leur est tombée dessus et qu'elle s'est appropriée leurs terres ancestrales, dont ils demandent d'ailleurs la restitution, et ils ne sont pas entendus parce que leurs concitoyens de France hexagonale ne connaissent pas du tout leur situation. Voilà donc une minorité française où les suicides sont légion parce que les personnes ne se sont pas adaptées à l'univers qui leur est tombé dessus. Donc, voilà, la France n'est pas européenne, elle n'est pas blanche, et elle ne peut pas avoir un Front National à 30-40%. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. S'il y a un pays qui n'a pas le droit, c'est celui-ci. Or, la situation est celle-là. Le Front National, l'extrême droite est à ce niveau, et la droite elle-même est très extrême. Hein. La droite qui n'est pas l'extrême droite est très extrême dans son expression aujourd'hui. Quelquefois, on ne fait plus vraiment la différence.
Dans la droite aussi,
voilà, quelquefois, on ne fait plus vraiment la différence. Mmh. Moi, je ne sais pas pourquoi Laurent Wauquiez n'est pas au FN, par exemple. Et ce que je veux dire, c'est que si la majorité a ce genre de tentation, il ne faut pas attendre des minorités qu'elles soient plus intelligentes. C'est des humains. Donc ça produit quoi? Ça les radicalise dans des positions qui sont les mêmes, qui sont aussi des positions identitaires, qui sont aussi parfois des positions très très peu fraternelles. Hein, il faut faire attention à ça. On peut faire exploser une société en continuant à raconter qu'il y a des ayants droit et puis les autres. Quoi. Ce n'est pas possible, pas ici. Donc il faut du courage. Il faut du courage, du sang-froid. Du sang-froid. Être capable de regarder le passé colonial sans état d'âme. Sans éprouver ce sentiment de culpabilité qui fait qu'on repousse la question et qu'on ne veuille pas voir. La culpabilité, c'est un problème entre soi et soi. Ce n'est pas de l'empathie, ce n'est pas de la compassion. C'est du narcissisme plus souvent. Donc ça ne doit pas avoir sa place ici. Il faut regarder ces choses froidement et puis se dire, voilà, ça, ça a été, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour que ça tienne? Et pas seulement pour que ça tienne, mais pour que ce soit harmonieux. Parce que je crois qu'au fond d'eux, ce que les gens veulent, c'est plutôt ça, quand même.
L'harmonie.
Oui, plutôt. Les gens veulent vivre tranquille. Mmh. Les gens ne veulent pas être des super conquérants et écraser les autres. Ils veulent une vie qui leur convienne. Donc il faut s'occuper des problèmes des gens, mais des problèmes de tout le monde. Et il faut respecter tout le monde. Il faut faire place à tout le monde. Accepter que l'hybridité, elle soit pour cet espace aussi. Et c'est au fond très très simple, c'est très très simple, ça demande juste un petit peu de bon sens, un peu d'amour de l'humain en général. Moi, s'il ne tenait qu'à moi, que ce soit pour l'espace africain ou pour l'espace européen, je nous placerais tous d'emblée dans des situations, dans des contextes fédéralistes qui nous obligent à prendre conscience qu'on est dans le même bateau que les autres, quoi. Qu'il y a pas de, que notre destin est vraiment commun. J'abolirais le concept de nation, je pense qu'il est très problématique. Mais bon, ça c'est la gauchiste tendance un peu rouge en moi qui parle. Mais je pense qu'il y a vraiment des vrais problèmes à régler, que le monde est assez dur pour qu'on se permette de vivre des situations qui polarisent bêtement la société.
Dans l'introduction de Marianne et le garçon noir, vous interpellez, je voudrais lire un petit passage. Le racisme systémique devrait avant tout préoccuper ceux dont il ne détruit pas l'existence, ceux qui ne sont pas menacés de se trouver sans emploi en raison de leur couleur de peau, ceux qui n'ont pas à effectuer de recherches poussées pour se savoir bien d'ici, ceux qui ne meurent pas, asphyxiés sous le poids de corps pesant sur le leur, ceux qui n'éduquent pas leurs fils dans la crainte de la police, ceux qui n'ont pas à arracher leur individualité à des siècles de préjugés racistes, ceux au nom duquel ils s'exercent. Est-ce que la question à poser désormais n'est pas celle de la blanchité, comme vous avez posé celle de la masculinité?
Je pense que c'est la dernière question et c'est le dernier tabou, parce que les minorités et les Noirs en l'occurrence ont tourné autour de la question noire. Jusqu'à en être saturé. On a même parfois surinvesti le domaine de signification qu'il ne pouvait pas porter. Et il reste une interrogation absente. Dans ce contexte où les groupes humains ont été racialisés et où on sait où ça a mené ceux qui n'étaient pas les dominants, qu'est-ce que ça a fait aux autres? Quand quelqu'un dit bamboula, ou négro, ou n'importe quoi d'autre de raciste, en fait, il ne parle jamais de l'individu en face de lui. Il dit quelque chose de lui. Quelle est cette chose? Est-ce qu'on peut se poser ces questions sans que les gens le prennent pour eux forcément, sans que le simple fait de soulever la question vous fasse passer pour un ennemi, voilà, un ennemi de l'Occident,
de la
voilà, voilà, et surtout de la République. Mais puisque je viens de dire ennemi de l'Occident, moi je suis pas sûre que ce soit une bonne chose pour l'Europe d'être l'Occident. Je pense qu'il faudrait la délivrer de ça, qu'elle devient l'Occident quand elle devient justement prédatrice et peu fraternelle, ce qu'elle n'a pas toujours été. Et que puisque ça s'est créé à un moment, on peut passer à un autre moment de l'histoire. Mais est-ce qu'on est prêt à changer? Est-ce qu'on est prêt à décider que les rapports humains ne vont pas être basés uniquement sur la domination? C'est ça le vrai problème. Est-ce qu'on a besoin d'écraser les autres pour être en relation avec eux? Qui dit ça? Pourquoi? Pourquoi ça doit être comme ça? Est-ce que c'est ce que veulent les citoyens français? Parce que je pense que quand les Français votent, ils ne se rendent pas compte qu'ils votent toujours aussi pour des politiques étrangères, qui sont des politiques de domination encore aujourd'hui. Et qu'ils ont le choix. Ils ont le choix de dire non, qu'on ne fera plus ça en leur nom, que... oui, ils veulent que la France prospère et qu'elle commerce à travers le monde, mais qu'ils ne veulent pas qu'elle tue, qu'ils ne veulent pas qu'elle spolie, qu'ils ne veulent pas qu'elle exproprie. Ça se décide, ces choses-là. Ça se décide. Et on n'a pas encore décidé ça. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne le décide pas? Qu'est-ce qui fait qu'on se sente perdant si on n'a pas un plus petit que soi, au fond? Ce sont ces questions qui m'intéressent et je pense qu'ils se posent de toute façon véritablement. La question de la grandeur a été très mise en avant récemment, puisque lors des dernières élections, que ce soit aux États-Unis ou en France, on n'a parlé que de ça. Trump a été élu sur son désir de « Make America Great Again ». Emmanuel Macron sur celui de redonner à la France son esprit de conquête. Moi, j'aime pas le mot conquête. Je sais pas si c'est l'esprit de conquête qu'il faut donner à la France. Je ne sais pas. Peut-être que le terme était mal choisi, mais moi, quand on me parle de conquête, je sais qu'il y a des conquis, je sais qu'il y a des gens qui vont être piétinés. Peut-être qu'on va trouver des manières subtiles de le faire, mais quand même. L'idée, c'est que c'est nous les plus grands. Moi, je voudrais qu'on soit tous les plus grands. Et je pense que c'est possible. Et que c'est un choix. C'est un choix de nouvelles modalités relationnelles. Et que ça n'empêche pas le commerce. Ça n'empêche pas la prospérité. Mais que on pourrait décider de regarder... les autres êtres humains, juste comme des êtres humains ayant les mêmes droits. Voilà, c'est assez simple. Assez simple.
Vous avez une production littéraire, d'essais, de conférences absolument hallucinantes. Moi, depuis que j'ai mis le doigt dans l'engrenage de vos écrits, je m'en sors plus, même si la lumière ne cesse de gonfler.
Faites une pause.
J'ai une question que je voulais vous poser, que je pose à toutes les femmes qui viennent ici. Est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous?
Oui, je pense me l'être donnée. Et elle est très confortable. J'ai beaucoup de mal à y laisser pénétrer quelqu'un. Si on veut vivre avec moi, il faut me laisser créer, il faut me laisser écrire et faire de la musique. Mais oui, je pense m'être donnée mon espace. Mais parce que j'ai su très tôt que je pouvais en avoir un. J'ai dit qu'on ne m'avait pas laissé parler de tout ce qui m'intéressait quand j'étais plus jeune, mais on m'a quand même donné quelque chose et peut-être que c'est ce qui m'a permis de tenir dans les moments difficiles. Parce que mon père racontait ma venue au monde comme la descente sur la terre d'une espèce de divinité. Moi, j'ai toujours cru que j'étais ça, hein. Que j'étais très spéciale, que j'étais un genre de, un genre de déesse. Et donc, j'assume ma divinité et je prends la place qu'il me faut, hein. Et partout où je suis. Et dans tous les moments de ma vie, j'ai fait ça.
C'est inspirant, ça fait envie.
Oui, mais il faut. Ouais. J'aime bien animer des ateliers d'écriture avec les femmes parce que elles ont vraiment besoin, surtout ici, je trouve, en Occident, où les femmes pensent être si libres, on leur a pas donné une image de la féminité qui soit divine. Et c'est un manque énorme. Et je pense d'ailleurs que si elles l'avaient eu, elles auraient très très vite dépassé l'étape du féminisme pour aller là où c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que cette puissance féminine ? Parce que c'est une puissance. Et c'est une puissance en soi. C'est-à-dire que, en réalité, il n'y a pas à se poser la question ni de la supériorité ni de l'infériorité à l'autre force qu'est le masculin, ni même de la complémentarité. Ce sont des puissances souveraines. Chacune est elle et a sa, voilà, son domaine et puis sa, comment dire, sa sphère de rayonnement. Et puis il se passe des choses quand elles se mettent ensemble ou quand elles s'affrontent. Mais elles ne sont pas comparables et elles n'ont pas à être complémentaires ou pas. Je pense que ça se joue ailleurs et que sur cette question-là, en fait, les féministes sont des petites joueuses parce que ça les amènerait. Mais oui, parce que le féminisme s'occupe de la question sociale et politique. Mais il y a une dimension ésotérique à nos vies, une dimension métaphysique, spirituelle, qui dépasse ça. Et je pense que si on accède à cette dimension-là, on peut admettre l'idée que la question, le problème qui se pose à nos sociétés aujourd'hui n'est pas seulement celui de l'égalité entre les sexes, mais celui du fait que la force féminine ayant, pour X raisons, reflué pendant trop longtemps, en fait, il ne faut pas qu'elle entre à égalité. Il faut qu'elle soit supérieure, il faut qu'elle soit dominante pendant un moment. Il faut l'assumer. Il faut assumer de dire ça. Moi, je ne veux pas l'égalité dans ce moment-ci du parcours de l'humanité. Je pense que c'est un moment où il faut plus de force féminine.
Plus de pouvoir.
Oui, il faut plus de force féminine, plus de valeur féminine. La force féminine n'est pas la propriété des femmes. C'est une puissance. Et on en a besoin parce qu'elle a été trop écrasée, trop tue, trop ignorée. Et en ce moment, il faut qu'elle soit dominante. Après, peut-être qu'il y aura un moment où on pourra parler d'égalité dans les sociétés, en sachant que de toute façon, au-delà des sociétés, les puissances en question sont souveraines. Mais pour l'heure, c'est pas l'égalité qu'il faut. Parce que l'égalité, c'est quoi ? C'est donc d'avoir les mêmes possibilités, les mêmes privilèges, dans le même environnement. Mais quelle est la structure de cet environnement, hein, en réalité ? Non, il faut une autre société, il ne faut pas la même société, il faut vraiment une autre société. Ça ne sert à rien l'égalité dans un environnement qui est, régi par la loi du capitalisme, par exemple. Le capitalisme est une barbarie. Mais oui, le capitalisme c'est une barbarie. Donc je pense vraiment qu'il faut, avoir l'audace de prôner autre chose. Et puis, que pour les femmes, ça commence par aimer être des femmes, aimer les autres femmes, a priori. Je ne parle pas d'un sentiment, je parle d'une attitude, vraiment a priori. Et c'est pas à gagner. Parce que voilà, dans ces sociétés dominées par le patriarcat, les femmes ont appris à être des rivales. Et donc là, ce n'est pas une question d'égalité seulement là, qui va régler le problème des femmes en elles-mêmes, avec leur être femme. Il y a vraiment plein d'autres questions. Donc il faut inventer les manières qui vont nous permettre de les résoudre, mais déjà poser et assumer de poser que dans le temps où nous sommes, ce qu'il faut, c'est une domination.
Je suis d'accord.
De l'énergie féminine.
Une vraie révolution. Voilà ce qu'il nous faut.
Voilà.
Vous avez parlé de musique à l'instant en parlant de votre chambre à vous. Est-ce que vous aviez un titre à recommander à ceux qui nous écoutent, à celles et ceux qui nous écoutent ?
Impossible de choisir
quelque chose qui parle de vous ou quelque chose qui parle juste de maintenant.
Ah, alors quelque chose. Oh là là, mais bon, de toute façon, c'est pas possible de choisir une chanson. Mais je vais choisir. Sur l'album de Diane Reeves, Art and Survival, l'art et la survie. Une chanson qui s'intitule Endangered Species, qui veut dire espèce menacée. Et où elle dit, je suis une espèce menacée, mais ma chanson n'est pas une complainte victimaire. Je parle de renaissance. Et dans la version originale qu'on trouve donc sur cet album, parce qu'il y en a d'autres versions, cette chanson déroule des moments de vie, des moments dans la vie d'une femme, et parfois des moments difficiles. C'est la seule chanson que je connaisse où on parle de viol, par exemple. Et donc j'aime beaucoup cette chanson où on dit voilà, il y a tout ça, mais quand même, je ne chante pas pour pleurnicher. Et j'aime tellement cette chanson qu'elle ces mots-là étaient déjà en exergue de mon deuxième roman, celui qui a eu le concours des lycéens. Et donc voilà ce que je choisirais, Diane Reeves, Endangered Species.
Ça évoque quoi pour vous, la poudre?
Boum!
I am an endangered species, but I sing no victim song. I am an artist, and I know where my voice belongs.
Merci à Leonora Miano d'être venue faire parler la poudre avec moi. Voilà, c'était le dernier épisode de la saison 1 de La Poudre. Merci à vous aussi de faire parler la poudre avec moi. Passez un bel été et rendez-vous en octobre pour d'autres boum. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec Isla Tortello, assistante de production, et Zaki Halal pour le mixage. Retrouvez toutes nos émissions sur nouvellesécoutes.fr.